Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Nicolas Gildersleeve. Il vient nous parler de la ressource La Halte du coin. On parle d'itinérance à l'espresso et à l'espresso allongé. Pierre nous amène son sujet, les mécanismes de défense du cerveau. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous parle du moral en télétravail. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec tous les deux de Ellie J. Bienvenue à Folie douce.
Je peux le regarder danser, je peux l'écouter penser, parler seul. Et comme l'accord est parfait, je sais qu'on pourrait le faire pendant des heures.
Je sais que t'en vois pas qu'une, si je réfléchis trop, c'est pour qu'on ne crée pas de banale rancune. Et qu'on passe un bout de vie tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et qu'on passe un bout de ma vie. Les autres vont nous regarder danser, passe la moitié du temps à penser qu'on va tomber et recommencer. On se relève toujours tous les deux.
L'un de nous devra partir, mais quand on parle des heures, j'y pense même plus. A-t-on besoin de se mentir, de vouloir prévoir l'inconnu?
Peut-être que ça finira bien plus mal que ce qu'on imaginait. Et toi, qu'est-ce que tu diras si à la fin du jeu on finit tous les deux,
tous les deux, tous les deux. Et qu'on fasse un bout de ta vie tous les deux, tous les deux, tous les deux. Et qu'on passe un bout de ma vie.
Les autres vont nous regarder danser, passe la moitié du temps à penser qu'on va tomber et recommencer. On se relève toujours tous les deux.
Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991.
J'accueille maintenant mon invité, Nicolas Gildersleeve. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce.
Merci, c'est gentil.
Vous êtes directeur général de la Halte du coin, qui est une ressource en itinérance sur la rive sud de Montréal. Donc, j'aimerais ça d'abord que vous nous présentiez qui vous êtes, parce que vous êtes directeur général de cette ressource, mais pour mieux vous connaître, comment on peut débuter ça?
Bien, pour commencer, moi, j'ai surtout travaillé à l'étranger avec une organisation qui s'appelle Médecins sans frontières.
Ouais.
Donc, dans les 15 dernières années, j'étais sur le terrain dans les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine et tout ça.
Okay.
Et au Québec, le milieu communautaire m'a accueilli dans les dernières années et maintenant je suis en poste au niveau de la direction générale de la Halle du coin.
OK. Et cet organisme qui était sur la Rive-Sud, bon, s'occupe principalement d'itinérance, puis on veut faire un lien ici aussi avec la santé mentale. Puis c'est quelque chose, même avant que vous soyez en studio, vous me disiez que souvent c'est pas évident pour les gens de concevoir que de l'itinérance sur la Rive-Sud, à Longueuil, on pense souvent que c'est au centre-ville de Montréal. Donc, comment on peut décrire justement cet organisme-là? Est-ce que ça fait longtemps d'abord qu'il existe?
Bien, on a été créé durant la pandémie, en août 2020.
D'accord.
Il y a trois organismes communautaires qui se sont unis pour faire cet organisme-là. On voyait qu'il y avait un besoin qui était là déjà depuis très longtemps en lien avec l'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance.
Ouais.
Et on voyait qu'on était vraiment rendu à une étape où on devait monter sur pied ce projet-là, puis avec la collaboration des trois organismes, on a pu monter sur pied ce projet-là, puis depuis le août 2020, on a toujours été à pleine capacité.
Et comment on peut décrire les services? Est-ce que c'est un lieu d'hébergement? Est-ce que vous faites des services comme dans la rue? Est-ce que vous allez comment ça fonctionne?
Quand on parle de services à haut seuil d'accessibilité chez nous, on est 24 heures sur 24, une ressource en hébergement et on est dans l'accueil inconditionnel. Donc, les personnes qui seront en situation d'itinérance, qui peuvent être sous l'effet de certaines substances et tout ça, on va les accueillir inconditionnellement, okay, dans le respect. Quand ils vont nous respecter, nous, et respecter leur père, on les accueille inconditionnellement. On est là 24 heures sur 24.
Peu importe l'heure, en pleine nuit.
En pleine nuit, si on a de la place, parce que comme je vous dis, souvent, on est à pleine capacité, mais il arrive parfois dans la nuit que les personnes veulent partir. Vous connaissez un peu la dynamique au niveau de l'itinérance. On n'est pas toujours dans un lieu fixe, donc ils veulent se déplacer. Bien, on va pouvoir accueillir d'autres personnes qui vont pouvoir venir dans nos services.
Et comment c'est pour un directeur général de gérer ce genre de ressources? Parce que c'est quand même beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup de, pas de l'improvisation, mais il y a beaucoup d'ajustements qui doivent se faire, tu sais, au quotidien. Donc, est-ce que c'est gérable parce que vous l'êtes? Vous semblez encore être en poste et vous semblez aimer ça, mais comment ça se passe le quotidien, de votre quotidien, en fait?
Je vous dirais, mon quotidien, moi, avec l'expérience que j'ai pu acquérir à l'étranger dans les urgences, dans la gestion des urgences et tout ça, on est toujours en mode urgence. Dans un refuge comme le nôtre au niveau de la Halle du coin, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des situations qui vont se produire, qu'on va devoir réagir de façon très promptement, très agilement.
Ouais.
Avec l'équipe d'intervention qu'on a sur place, c'est des personnes aguerries, des professionnels du communautaire qui connaissent leur milieu puis qui sont capables de répondre dans l'urgence. C'est sûr qu'idéalement, on aimerait aller vers une stabilité et tout ça et pas toujours être dans l'urgence, mais avec le haut seuil d'accessibilité, avec les personnes qu'on accueille, je vous dirais que ça nous amène souvent à réagir et d'être là vraiment pour répondre aux besoins au moment présent.
Ouais.
Donc, on a de la difficulté à se projeter dans le temps et tout ça parce que les personnes qui arrivent, ils arrivent avec leur bagage, avec leur vie et tout ça. Puis on est là pour les accueillir, pour juste ouvrir nos portes.
Il faut être prêt à tout moment, mais en même temps, quand on dit état d'urgence, ça ne veut pas dire état de panique. T'sais, vous n'êtes pas en panique parce que vous avez des professionnels qui sont habitués de gérer des situations comme ça. Donc, on est en urgence, mais c'est pas nécessairement que vous perdez le contrôle. Là. C'est gérable. Là.
Je vous dirais que c'est gérable justement parce qu'on a ces professionnels qui sont là, puis on a une équipe qui est là sur les trois quarts de travail. Donc, on a trois professionnels qui sont là durant le jour, trois le soir, trois la nuit. Et on s'assure d'avoir un suivi entre les équipes. On a 25 employés aussi. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une équipe pour soutenir l'organisme. On a une équipe de gestion aussi. Donc, depuis notre création, on a une direction générale, on a un comité de gestion, on a un agent de développement, une coordonnatrice au niveau de l'administration, une direction clinique. Et tout ça nous permet d'atteindre cette stabilité-là au niveau de la gestion de l'organisme.
Oui. Si on parlait maintenant, je disais en début dans l'entrevue que l'itinérance, souvent, on l'associe au centre-ville de Montréal. Mais il y en a sur la Rive-Sud, il y en a dans la région de Longueuil où vous êtes. Donc, comment on pourrait décrire, est-ce que c'est une itinérance qui est différente de Montréal ou est-ce que ça se compare?
Je vous dirais qu'on parle souvent d'itinérance cachée. Donc, dans les dernières années, les personnes étaient amenées surtout à faire d'aller chez des amis, d'aller chez des membres de famille, de faire du couchsurfing, de dormir dans leur voiture. Et tout ça, c'était pas nécessairement visible. Et ce que la pandémie nous a amené, c'est de visibiliser l'itinérance sur la Rive-Sud. Il n'y avait plus le filet social pour venir en aide à ces personnes-là. Il n'y avait plus cette protection-là de pouvoir aller chez des amis et tout ça à cause de toutes les différentes mesures qui avaient été mises en place.
C'est...
Donc, on a dû, justement, orienter nos services vers les personnes qui voulaient pouvoir venir accès seulement à avoir un toit. Parce
ouais.
qu'à la fin, l'important pour nous, c'est de répondre aux besoins primaires. Puis pour ces personnes-là qui ne sont pas nécessairement visibles, mais qui sont devenues durant la pandémie. Donc aujourd'hui, sur la Rive-Sud, on voit de plus en plus de personnes en situation d'itinérance parce que plus tous ces mécanismes-là, ils ne peuvent plus dormir, par exemple, d'aller dans des restaurants comme ils allaient avant, d'aller dans des guichets automatiques, d'aller dans des endroits où ils pouvaient aller chercher un peu de chaleur ou de réconfort dans différentes situations.
Et est-ce qu'il y a un portrait type d'itinérant sur la Rive-Sud? Est-ce que c'est des gens qui ont perdu leur emploi, qui avaient l'habitude, je ne sais pas, d'avoir un logement, qui n'ont plus les moyens d'en avoir un? Je donne des exemples, mais est-ce qu'il y a un portrait type qu'on peut définir sur la Rive-Sud?
Je vous dirais de plus en plus la crise du logement a exacerbé les différences sociales puis la difficulté des personnes pour se rendre jusqu'à la fin du mois. Quand on doit choisir entre manger ou avoir un toit, souvent on va faire le choix de manger, mais à défaut d'avoir un toit. Puis moi, je pense que c'était présent avant la pandémie, ces difficultés-là. Mais aujourd'hui, le fait de justement perdre son emploi, il y a plusieurs personnes qui étaient chez nous qui ont dit « on a perdu notre emploi durant la pandémie puis maintenant on ne peut plus payer notre loyer. Le seul endroit qu'on peut avoir, c'est la halle du coin sur la rive sud comme hébergement d'urgence. » Parce qu'oublions pas qu'il y a plusieurs... On parle d'une trajectoire de service. Nous, on fait partie d'une trajectoire de service au niveau de la réponse en itinérance. Mais
Donc, il y a d'autres services aussi. Dans le fond, vous êtes un peu une première ligne, si on veut comparer au milieu hospitalier. C'est un peu ça, peut-être, quand les gens il y a une certaine urgence, se rendre chez vous, essaie d'avoir une aide temporaire. Mais comme vous dites, il y a d'autres services peut-être à plus long terme qui existent.
Oui, je vous dirais que sur la Rive-Sud, il y a plusieurs organismes qui gravitent autour de la réponse aux personnes en situation d'itinérance. Des organismes comme Macadam Sud qui sont dans le travail de rue, qui est vraiment, comme nous, en première ligne. Donc, qui sont dans la rue, qui sont là pour... échanger avec les personnes vulnérables.
Ouais.
Ensuite, il y a d'autres organismes dans notre trajectoire de service. Il y a l'abri de la Rive-Sud, il y a l'hébergement à la Casa Bernard-Hubert qui sont plus dans la stabilité résidentielle et tout ça. Et il y a tous les organismes qui gravitent autour de cette trajectoire de service au niveau de l'aide alimentaire, de la recherche d'emploi, de différents suivis qui sont faits. Donc, on est vraiment dans un écosystème communautaire dans la région de Longueuil.
Oui. Nicolas, qu'est-ce que, d'après vous, vous êtes quand même depuis quelques années, puis vous avez vu d'autres choses dans d'autres pays, comme on entendait tantôt, mais qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Parce que la situation n'est certainement pas très rose, puis il y a certainement des manques, mais est-ce que vous avez des idées, à force de voir des gens sur le terrain, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer encore plus pour aider les personnes itinérantes sur la Rive-Sud?
Mais je vous dirais que l'accès aux services en soins de santé mentale, c'est une des plus grandes difficultés qu'ils ont. C'est des personnes qui sont marginalisées, c'est des personnes qui ont perdu confiance dans le système de santé,
ouais.
qui ont été institutionnalisées et qui n'ont plus nécessairement le goût d'être dans les grandes structures institutionnelles. Et nous, dans le milieu communautaire, on est vraiment là dans la création des liens, on développe la confiance avec les personnes, puis on tisse tous les liens avec ces personnes-là pour les accompagner au rythme qu'ils le désirent. On n'est pas là, nous, au niveau de la halle du coin, pour dire « vous venez à la halle pour faire ça, ça, ça ». On vous accueille et le jour où vous êtes prêt, on va vous accompagner. Mais je pense qu'encore une fois, au niveau de la santé mentale, qui est une majeure partie des personnes qui viennent chez nous, c'est la difficulté et d'accès aux soins en santé mentale plus spécialisés, plus loin dans la trajectoire de service. Parce qu'on n'a pas de psychologue dans notre équipe, de psychologue formé, on n'a pas de psychiatre, on n'a pas de médecin, on n'a pas d'infirmier en santé mentale. Mais on a tous des professionnels du communautaire qui sont là puis qui sont capables de tisser des liens avec les personnes qui sont
présentes. Donc, c'est pas un mythe parce que, tu sais, on dit souvent, tu sais, les gens, pas la majorité, mais beaucoup de la population vont dire, ben les personnes dans la rue ont tous des problèmes de santé mentale, mais il y a quand même beaucoup, vous dites, quand même, dans votre cas, il y en a beaucoup sur la Rive-Sud, vous faites affaire avec, en tout cas, chez vous, à la halle du coin.
Toutes les semaines, au niveau clinique, on a des discussions cliniques parce qu'oubliez pas qu'on est dans l'accueil conditionnel, donc souvent, les personnes vont être en état de consommation.
Ouais.
Parfois, cet état de consommation va amener à certaines psychoses. Et les psychoses, nous, on n'est pas les spécialistes pour traiter ces psychoses-là. Donc, on va les référer à l'urgence, à l'hôpital et tout ça. Mais dès qu'ils vont se sentir mieux, ils vont être relâchés dans la rue.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est vraiment d'assurer un continuum de services puis de déstigmatiser la personne en situation d'itinérance. Il y a beaucoup de stigmas, comme vous dites. On pense aux personnes en situation d'itinérance au niveau de la santé mentale. C'est tous des êtres humains à la base. C'est toutes des personnes. Et je pense qu'on doit démystifier la santé mentale généralement dans la population, pas seulement pour les populations vulnérables, mais regardez aujourd'hui la situation au niveau de la santé mentale dans la population mondiale. Il y a de plus en plus de problématiques de santé mentale chez toutes les classes. C'est pas juste les personnes en situation d'itinérance qui ont des problèmes de santé mentale.
Et peut-être que ces personnes-là dont vous parlez, peut-être un jour, sûrement un jour étaient beaucoup mieux, se sentaient, avaient une vie normale et tout à coup, ça a basculé. Fait que tout le monde peut être touché, hein. Faut faire attention avec le jugement.
Nul n'est à l'abri de l'itinérance. Ça, je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a personne qui est à l'abri de l'itinérance dans toute la sphère de vie. Je parlais justement avec un médecin il y a quelques semaines qui me parlait qu'il y avait des collègues médecins qui avaient été en situation d'itinérance.
Non.
Donc, on ne parle pas seulement des personnes qui sont à faible revenu et tout ça. On parle de toutes les classes de la société qui peuvent être en situation d'itinérance. Et moi, je pense que c'est vraiment à la base tout ce qui est en lien avec comment on aide l'être humain à se sentir mieux, à se sentir bien. Et ça, on devrait le faire pour tout le monde. Puis souvent, les personnes marginalisées sont laissées de côté. Aujourd'hui, pour une personne comme moi, j'ai les moyens financiers de me payer des thérapies avec un psychologue aujourd'hui.
Mm-hmm.
Mais une personne marginalisée, non. Puis l'accès aux services de santé va être encore plus difficile. Les défis vont être beaucoup plus grands qu'une personne comme moi qui peut se payer une thérapie avec un psychologue et tout ça.
Exactement. Il reste quelques secondes, en fait, à l'entretien. J'aimerais ça qu'on mentionne comment vous trouvez. D'abord, vous êtes situé physiquement à Longueuil, je pense. La ressource, est-ce que c'est connu ou c'est un endroit privé? C'est pas privé parce que les gens s'y rendent?
Non, c'est quand même assez connu. C'est au niveau du boulevard Sainte-Foy présentement. Donc, boulevard Sainte-Foy et Bourassa. On a une page Facebook,
ouais.
La Halte du coin.
Si on cherche ça dans Facebook, on va vous trouver pour savoir ce que vous trouvez, puis les coordonnées sont là et tout ça.
Toutes les coordonnées sont là. On a notre page web qui est lahalteducoin.org et on peut nous rejoindre. Là, on est disponible pour répondre à vos questions et tout ça 24 heures sur 24.
Ça, c'est intéressant.
Et on peut pouvoir orienter les questions que vous aurez pour nous au niveau de notre ressource.
Bien, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant, Nicolas Gildersley. Voilà, je l'ai eu. Alors, merci beaucoup pour votre venue à Folie Douce et puis bonne continuation avec l'organisation et l'aide que vous faites au niveau des personnes itinérantes.
Merci beaucoup, Yvan. C'est très apprécié.
Merci. À la prochaine.
Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Aujourd'hui, ton sujet, les mécanismes de défense du cerveau.
Oui, et tu vas voir au fil de l'article que on en a tous des mécanismes de défense du cerveau et on en a plusieurs même.
Conscient ou inconscient, j'imagine?
Je te dirais inconscient.
Plutôt, hein?
Oui, et c'est nécessaire même pour être capable de passer à travers des difficultés. C'est normal d'avoir des systèmes de défense.
Ouais.
Mais je vais vous lire quelques passages aujourd'hui d'un article que j'ai trouvé sur Internet, comme d'habitude, et qui s'appelle « Calmez votre anxiété en apprenant à gérer vos mécanismes de défense ». C'est écrit par une madame qui s'appelle Kat Bougard, qui est rédactrice indépendante américaine basée dans le Wisconsin. Et elle couvre principalement les sujets liés aux carrières, au développement personnel et au travail indépendant. Et elle, cette madame Bougard, nous dit que c'est important, oui, c'est important de les avoir, mais à un moment donné, surtout dans le milieu du travail, c'est important d'être capable de les identifier, c'est-à-dire ceux qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que à la longue, ça peut devenir néfaste. Parce que si on, parce que c'est bon de pouvoir observer ce qu'on fait pour être capable de s'en sortir à un moment donné de ces mécanismes-là, être capable de s'observer tel qu'on est pour être capable de progresser par la suite. Comme si, finalement, c'était bon d'être plus nous-mêmes avec le temps, si tu veux. Alors, cette madame Bougard nous dit « Permettez-moi de commencer par une confession embarrassante. » Elle nous dit « Le simple fait de penser à écrire cet article me rend nerveuse. Je voulais écrire quelque chose de minutieux et précis, tout en permettant une lecture facile. De plus, je savais que cela impliquait une immersion dans de nombreuses recherches psychologiques. » Donc, vous savez ce que j'ai fait, nous dit-elle. Elle nous dit, comme une adulte responsable que je suis, j'ai évité cette tâche aussi longtemps que je le pouvais. Je me suis tout d'abord consacré à beaucoup d'autres projets plus petits et plus faciles. Elle nous dit, j'ai vidé ma boîte de réception, j'ai appelé ma mère et j'ai même brossé mon chien. Alors, semble-t-il que ça peut avoir un effet calmant. Surtout si c'est un gros chien poilu, là, comme un collier. Ça peut
prendre du temps, oui.
Elle nous dit, pas besoin d'une longue séance de psychanalyse pour se rendre compte que mon mécanisme de défense, par défaut, est l'évitement. Elle nous dit, nous avons tous ce mécanisme d'auto-sabotage, entre guillemets, qui fait parfois plus de mal que de bien. Trouver quel est le vôtre n'est pas un exercice sadique. Cela peut vous aider à le surpasser. Alors, quel est le vôtre? Quel comportement est-ce que vous adoptez pour repousser le sentiment d'anxiété et préserver votre propre ego? Vous hésitez, dit-elle, creusez le sujet et vous découvrirez quoi faire pour mieux gérer votre anxiété et comment calmer votre anxiété au travail. Les mécanismes de défense ont été remarqués pour la première fois par Sigmund Freud, le célèbre fondateur de la psychanalyse. Cependant, ils ont été développés et étayés par sa fille Anna Freud à travers ses remarquables recherches. À la base, Mme Bougard nous dit que les mécanismes de défense sont égocentrés, c'est-à-dire que nous les utilisons tous inconsciemment afin de nous protéger des pensées ou des sentiments négatifs tels que l'anxiété au travail ou dans notre vie personnelle ou la culpabilité. Nos mécanismes de défense passent vraiment à la vitesse supérieure lorsque nous nous sentons menacés. Pas forcément physiquement menacés, il s'agit plutôt de ces stratégies psychologiques qui surviennent dans des environnements de stress élevés où nous doutons de nos capacités. Nous devenons soudainement hyper conscients de nos propres faiblesses. Nous restons sur la défensive afin de préserver notre ego.
Ouais.
Cela a du sens, selon moi. Alors, et puis on le fait tous. Bien entendu, les mécanismes de défense peuvent apparaître dans tous les domaines de votre vie, mais ils sont visiblement plus présents au travail, là où l'anxiété est importante et que nous voulons mettre en avant le meilleur de nous-mêmes. Mais voilà le problème. Il est normal d'avoir des mécanismes de défense et nous les utilisons tous dans une certaine mesure. Mais comme la recherche le démontre, ce n'est que lorsque ces comportements sont poussés à l'extrême qu'ils sont à l'origine de complications et peuvent mener à des tendances obsessionnelles, voire même névrotiques. Comment empêcher que votre propre mécanisme de défense vous nuise, en particulier sur le lieu de travail? La première étape consiste à reconnaître votre mécanisme de défense prédominant. Et une recherche rapide révèle qu'il y a des milliers de fonctionnements différents. Premièrement, il y a l'évitement. Et la devise de ce mécanisme serait « je vais rester aussi loin que possible de cette situation stressante ».
Ça doit revenir souvent, cet élément-là. Il me semble l'évitement, ça arrive souvent que les gens veulent éviter justement les conflits ou
exactement,
les problèmes.
Exactement, ouais. Mais ici, Mme Bougard nous parle des plus fréquents.
Ouais.
Elle nous dit, elle dit même que c'est son préféré. Elle dit « chaque fois que vous ne voulez pas vous occuper de quelque chose, la solution de facilité, c'est de l'éviter complètement
ouais. ».
La fameuse procrastination, c'est la forme d'évitement la plus courante en milieu professionnel. Et elle nous dit « je plaide coupable ». Vous vous tenez à l'écart d'un scénario potentiellement négatif en continuant à le reporter à plus tard.
Qui ne l'a pas fait.
Qui ne l'a pas fait. Oui. Cependant, l'évitement s'étend au-delà de vos tâches. Il s'étend également à vos relations. Autrement dit, ça s'étend partout.
Ouais.
Le déni, maintenant, un autre mécanisme d'évitement, et sa devise serait « il est impossible que cela arrive ». Alors, imaginez-vous que vous et votre équipe travaillez ensemble sur un grand projet. La date limite se rapproche. Mais je vais continuer après, plus tard dans l'émission. Et puis, c'est pas que je veux l'éviter, là.
Mais on va poursuivre plus tard à l'espresso allongé, donc les mécanismes de défense du cerveau.
De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale.
Je suis en compagnie maintenant de notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, ta chronique, le moral en télétravail, ça rime presque.
Oh, ça rime presque,
c'est
oui.
Pas, c'est pas de l'humour, là, mais non. On voulait juste mettre un titre accrocheur.
On peut essayer.
T'as trouvé ce titre-là, le moral en télétravail qui est bon.
Oui, bien écoute, en fait, on a quasi tous connu le télétravail, hein,
ouais.
Sauf certains travailleurs qui ne peuvent pas... Un chirurgien à distance, c'est plus difficile,
c'est
on va
cyclique,
dire.
C'est cyclique, là. Il y en a, il n'y en a pas, selon voilà. la pandémie, mais effectivement, ça a été connu par pas mal de gens. Là.
Voilà. Et, mais est-ce que tu connais le plus grand mal que provoque le télétravail? Est-ce que,
la
comme
solitude,
ça, spontanément,
la solitude?
Mais physiquement, disons plus physiquement, quand...
Physiquement,
comment tu te sentais physiquement
peut-être que
sur ta chaise?
Peut-être que physiquement, c'est pas approprié pour le travail. Il y a peut-être une disposition chez les gens qui n'est pas comme dans un bureau. C'est peut-être ça, je dirais. Là.
Oh, eh bien, en effet, beaucoup de personnes, les chiropracteurs, les physios ont été assaillis
ouais.
parce que les gens avaient mal au dos.
C'est ça.
Donc, ils ont été débordés. C'est vraiment, ça s'est amplifié par le fait que les gens doivent... rester dans leur chaise à la maison.
Tout le monde n'était pas équipé, tout le monde n'avait pas
non,
prévu
moi
d'être
la
équipé.
Première, pas du tout équipé.
Et on a vu certains bureaux même où les gens peuvent être soit debout, assis. Apparemment, c'est bien là, parce qu'il faut changer un peu la position. Parce que c'est... Alors qu'au bureau, souvent, c'est ça qui se passe dans un bureau. On est appelé à circuler, voir des collègues, mais quelqu'un qui est toujours chez lui, c'est pas facile.
Ben, la plupart d'entre nous, on n'était pas équipés pour, avec une chaise confortable, moelleuse, qui tourne,
ouais.
qui nous fait pas avoir mal au
la bonne
au,
position
au bras,
de,
au dos, etc.
De l'écran, la souris,
voilà.
Tout ce qu'on
bon,
veut.
Et donc, le premier message, notre corps nous l'a donné.
Ouais.
Notre corps nous l'a donné. Mais, concrètement, pour la santé mentale, quels sont les risques du télétravail?
Ouais.
Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous a fait? Qu'est-ce que ça a provoqué?
Et ton titre dit « le moral en télétravail ». Effectivement, c'est important de garder le moral. Tu sais, c'est une expression. Là,
on va essayer de le garder.
Comment oui. être heureux, comment être productif, comment se sentir bien dans notre télétravail aussi. Là.
On va essayer de le garder, mais pour bien le garder, on doit comprendre ce qui se passe. On doit comprendre où sont les principales difficultés.
Ouais.
Et en fait, la principale difficulté, pour que reconnaissent les gens, et qui leur donne une charge mentale supplémentaire, c'est avoir la difficulté de scinder famille-travail. Donc, on a vu des choses très rigolotes en ligne, des gens très connus ou des sénateurs qui avaient une entrevue sérieuse avec un média quelconque, et puis derrière, l'enfant apparaissait derrière, comme si de rien n'était.
Ou la conjointe ou le conjoint.
C'est ça, tout à fait.
On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer.
Voilà, où la caméra descend trop bas et puis la personne n'est pas appropriée, est habillée en pyjama et pas habillée comme il faut pour le bas.
Ouais.
Donc, c'est sûr que c'est difficile de faire la différence avec les membres de la famille dans la même maison, des devoirs, les uns qui crient. On n'a pas tous un sous-sol, on n'a pas tous un bureau.
Le chien qui jappe.
Le chien qui jappe, en effet.
Non, c'est vrai que...
Des chats qui passent devant la caméra, ça, il y en a eu pas
les
mal.
Les chats qui ont toujours tendance à venir près des caméras, sentent le...
Voilà,
le...
ils sont attirés, ils veulent peut-être nous empêcher de travailler aussi, et
c'est
voilà.
Mais c'est vrai que c'est un défi. Là.
En effet, c'est un défi, c'est une charge supplémentaire, on est tiraillé entre les deux. Autre effet reconnu, du télétravail, c'est qu'il y a un sentiment d'isolement social. Bon, je ne parle pas des gens qui ont fait ce choix sciemment, mais ils pourraient encore quand même avoir ce sentiment d'isolement social. Mais c'est qu'on est chacun dans notre bulle, on ne parle plus pour des bêtises. On a vu dans une autre chronique, parler pour des petites bêtises du genre à la photocopieuse, ça va, comment ça va, tout va bien, ah oui, allez, à bientôt. On dit des phrases anodines, mais c'est important. Et des conversations un peu plus poussées aussi sont importantes avec d'autres collègues.
Ouais.
Donc, on a ce sentiment d'isolement social parce qu'en plus, on ne va plus au travail et en plus, on voit moins de personnes, on ne prend plus le transport. Donc, on voit moins de personnes. Et peut-être qu'en chemin, en transport, on s'arrêtait quelque part dans un magasin pour flâner, etc. Et du coup, on discutait plus avec le monde dans la rue. Donc ça, c'est un autre problème qui peut découler du télétravail. Et il y a aussi le fait qu'on doit être très organisé pour notre travail. Parce qu'on n'est pas là rythmé par le rythme des collègues également.
Ouais.
Ah, il y a une réunion, on se lève tous, on voit la réunion, on ne risque pas de l'oublier. Qui n'a pas oublié une réunion?
Ouais.
Moi, ça m'est arrivé.
Ouais.
Donc, une fois, oh misère, j'avais une réunion, mais on a beau se mettre des pop-up, des fois, on va juste faire autre chose et on n'entend pas le pop-up qui nous dit... Réunion à telle heure.
Alors que dans le bureau, on est sauvé quelquefois par l'environnement qui dit « Oh, c'est vrai, je n'ai
voilà, on voit les collègues qui disparaissent, on sait qu'il faut aller à la réunion.
Ça paraît
d'accord
mieux, ouais.
C'est beaucoup mieux.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on a aussi les gens parlaient de leur peur et du fait authentifié aussi qu'ils perdaient des contacts professionnels.
Ouais.
Donc le réseau, ça me nuisait. Le réseau était de plus en plus petit. Ils avaient peur que si... Bon, un jour, on retourne dans un état où moins de monde est en télétravail, où on a plus une vie sociale et une vie de travail dans les bureaux, etc. On est tout un nouveau travail de reconquête, de réseautage à faire.
Ouais.
Alors, c'est sûr que ça peut être une inquiétude. On pense aux travailleurs autonomes qui dépendent de leur réseau. Si les gens ne veulent plus être joignables et qui disent « Oh, mais je suis en télétravail, envoie-moi juste un message », qu'ils ne répondent plus au téléphone, ils ne les voient plus dans une boutique, ils ne les voient plus dans une succursale. Donc, c'est difficile pour les travailleurs autonomes à ce moment-là, quand ils voient que leurs contacts, qu'ils en perdent beaucoup.
Et le réseautage, des fois, permet aussi peut-être d'avoir de l'avancement, tu sais, d'avoir des promotions, des choses comme ça, parce que c'est comme ça, soit dans une autre entreprise, soit dans la même entreprise. Tu sais, il y a ça aussi, des fois, ça aide à dynamiser peut-être sa carrière. Là.
Oui, et puis ça a un effet exponentiel parce que si on a bien travaillé quelque part, il va nous référer à quelqu'un d'autre et ça peut aller vite, etc. Mais ça, si tout le monde se renferme un peu plus et que les échanges s'amenuisent, c'est plus difficile. Alors, les gens aussi perdaient, mais ça, je pense que c'est un côté qui déplaît peut-être aux chefs d'entreprise. C'est le fait que la culture d'entreprise se perde. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous êtes plus soucieux des devoirs de l'enfant ou d'une lessive à faire ou d'un rapport à remettre qu'en fait vous appartenez, je ne vais pas dire de nom, à telle ou telle entreprise très connue dans les médias ou en informatique. D'accord ? Donc il y a une perte de ce côté-là. Donc maintenant qu'on sait un petit peu ce que ça peut produire comme effet, le télétravail, quelles sont nos solutions ? Comment on peut faire pour... vivre bien en télétravail et garder le moral, on peut le dire comme ça, mais plus que garder le moral, être bien avec le télétravail.
Bien fonctionnel.
Bien fonctionner, être heureux et fonctionner pas comme avant, mais fonctionner quand même. D'accord ? On doit tout d'abord se dire, si on n'est pas travailleur autonome, première chose à faire, c'est se renseigner s'il y a une politique de l'entreprise pour le télétravail. Donc c'est sûr qu'il faut aller la lire, il faut être conscient de ce qu'il nous autorise. Normalement, il y a des réunions et là, les gens vont vous dire de telle à telle heure, tu es quand même censé être devant ton bureau. Oui. Ou non, tu ne dois pas être devant ton bureau. On ne va pas contrôler, mais le travail doit être fait. Donc, ça va dépendre d'une entreprise à l'autre, mais il faut être conscient pour ne pas se mettre dans le trouble de la politique de l'entreprise, des droits, des responsabilités des travailleurs qui y sont. Maintenant, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on a les outils adéquats, ordinateurs, etc.? Ben, le bureau doit pouvoir vous fournir un minimum.
Ouais.
Et puis, on a parlé du mal de dos. Ben, il faut peut-être trouver une solution pour être bien physiquement au travail. En télétravail, pardon.
Qui est devenu
beau
le nouveau travail.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Le nouveau lieu de travail.
Voilà. Et ce qu'on doit faire, et ce qui est fondamental, c'est planifier notre travail, parce que personne ne va nous contrôler notre horloge, personne ne va nous organiser, il n'y a personne qui est à côté de nous pour ça. Donc, planifier les heures de travail, les minutes de travail et les pauses. Et les prendre. Ne pas dire non, non, je prendrai plus tard. On prend la pause dès qu'on peut.
Et ce n'est pas fait pour tout le monde. Autant le télétravail peut plaire à beaucoup, à plusieurs, peut-être pas beaucoup, mais à plusieurs personnes. Peut-être des gens qui trouvent leur compte là-dedans, mais il y a beaucoup de gens probablement qui ce n'est pas fait pour eux non plus. Là.
Non, parce que justement, ils auront difficile à ajuster ou la pause, ou ils vont étirer la pause, ou ils vont étirer le travail, et les deux ne sont pas bons.
Non.
Donc, c'est sûr que ça demande une sacrée discipline et une durée de cette discipline, ce qui n'est pas évident quand on ne voit pas de monde. On doit essayer de maintenir ses contacts aussi avec nos collègues de travail d'une manière ou d'une autre pour garder le moral aussi et surtout marquer nos limites et dire par exemple je suis joignable de telle à telle heure et que les gens n'essayent pas après 18 ou 20 heures parce que de toute façon ils savent que vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas ailleurs. Non, après telle heure, c'est ma vie personnelle.
On débranche et puis...
Voilà, il faut débrancher en effet et prendre du temps pour vous, donc profiter de chaque pause pour faire des mots croisés, de la relaxation, de la respiration, aller faire de la marche,
aller marcher,
faire une course.
Prendre l'air un peu, peut-être.
Voilà, de la course à pied, prendre l'air, rejoignez peut-être un collègue à mi-chemin à l'heure du midi, si vous habitez près d'un collègue, pour jaser dans un parc. Il faut aussi, ça c'est important.
Comme on le ferait si on travaillait au centre-ville et qu'on allait prendre, je ne sais pas, une heure à l'extérieur.
Prendre une heure, on va manger un sandwich ensemble,
on fait
les boutiques... On jase dehors, tout simplement.
C'est
des choses, on ne faisait pas attention, mais tout ça entretenait notre bonne santé mentale.
Oui.
Et maintenant qu'on en est privé quelque part, on se rend compte que c'est fondamental.
Il faut libérer notre tête à l'occasion, dans la journée. Il faut penser à autre chose, il faut respirer
et
d'autres
airs. Bouger.
Bouger,
on
effectivement.
On ne le dira jamais assez.
Comme on disait, on est assis, si on est assis toujours, ça cause des problèmes. Ouais.
Voilà, et on... Au bureau, il y a toutes sortes d'excuses pour se lever, etc. À la maison, si on est parti et qu'on est dans un bureau, là, justement, où il n'y a personne qui vient nous déranger, on peut durer. Ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut veiller à ça. Il faut aussi faire attention que si on accumule des griefs et des problèmes envers les collègues ou la société de manière générale, il faut des mises au point. Il faut être raisonnable, évidemment, dans ces mises au point, mais il ne faut pas les laisser traîner. Il faut aller retrouver en Zoom ou par écrit la personne et dire, écoute, voilà, là, il y a quelque chose, peut-être que j'ai mal perçu dans le Zoom, peut-être que j'ai mal perçu par le courriel.
Ouais.
Mais il faut faire des mises au point parce que sinon, ça peut prendre des dimensions qui ne sont pas voulues et qui peuvent être un peu plus lourdes à solutionner.
Et c'est peut-être plus difficile à régler à distance, justement,
parce que
comme tu disais avant, tu sais, à l'époque, on pourrait se rencontrer près de la machine à café, puis... régler une situation rapidement, parce que en personne, c'est toujours plus facile.
Voilà, donc le bon vieux téléphone, ça aide pas mal. Et
c'est mieux, ouais.
Aussi, une fonction que je vais donner au monde, c'est de supprimer la vue de votre propre portrait sur Zoom. Ça permet d'être attentif à l'autre et d'arrêter de voir ses propres défauts non-stop. Je ne suis pas coiffée, j'ai un bouton sur le nez, autre chose.
Okay.
Ça aide vraiment, ça a été dit. Alors maintenant, donc, conclusion, pas de recette magique, mais quand même. On peut essayer de bien vivre dans le temps, ce télétravail. Il faut aussi s'ajuster. Voilà, on va s'ajuster. Les tâches vont être différentes. D'un mois à l'autre, on va ajuster ce qui est nécessaire pour notre bien-être. Peut-être plus de pauses à un moment donné et le mois suivant un peu moins. Il faut s'écouter, être à l'affût de nos signes de détresse et vraiment, au jour le jour, faire un arrangement sur mesure pour sauver notre santé mentale dans ces circonstances.
Bien, c'est bien. Merci beaucoup, Catherine. C'est fort intéressant. Il faut s'y occuper. On aura des références à donner, d'ailleurs, sur notre site, comme d'habitude.
Exactement.
Au antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce, donc sur le télétravail. Et donc, garder le moral, finalement, en télétravail. Merci beaucoup, Catherine.
Merci, Yvon.
À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Changé, pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard.
Douce. C'est l'émission qui vise l'authenticité et se vend de fraîcheur quand il est question d'information en santé mentale.
C'est maintenant l'espresso allongé et le sujet débuté plus tôt, les mécanismes de défense du cerveau, Pierre.
Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Calmez votre anxiété en apprenant à gérer vos mécanismes de défense ». C'est écrit par une madame qui s'appelle Kat Bougard, une Américaine basée dans le Wisconsin. Alors, j'avais commencé une liste de qu'elle avait fait de mécanismes de défense du cerveau parmi les plus utilisés. Et parmi ce...
Il y en a un que tu avais commencé, mais on n'a pas pu le compléter.
Oui, hein? C'est ça, c'est le déni.
Ouais.
Ça, c'est vraiment utilisé souvent comme mécanisme de défense. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que ce qui se passe, ben, c'est pas vrai.
Ouais, on coupe court. Là, c'est
oui, elle nous dit, chaque fois qu'on peut manifester un soupçon de doute, on répond rapidement par un nonchalant « Non, je ne suis pas inquiet, tout est sous contrôle. » Mais bien sûr, vous pouvez appeler cela une pensée positive, mais en réalité, c'est un mécanisme de défense que nous connaissons tous. Le déni qui peut être la source d'une grande anxiété au travail. Finalement, on empire les choses,
ouais.
Je pense.
C'est un mécanisme qu'on utilise probablement dans la vie de tous les jours, mais là, dans ton cas, c'est au travail. Là,
au travail, oui.
C'est ça.
Aussi, troisième point, il y a la rationalisation. Et la devise de ce mécanisme, ce serait « ce n'est pas de ma faute parce que telle ou telle raison,
tel ou tel
facteur, par exemple. » C'est une bonne vieille excuse. Madame Bougarde nous dit « c'est là que la rationalisation entre en jeu. Avec ce mécanisme de défense, vous établissez une série de faits entre guillemets, qui expliquent pourquoi une situation se déroule d'une certaine manière. » Revenons à notre exemple sur le risque de perdre la date limite d'un projet d'équipe. Elle nous dit « Admettre que vous ne l'avez pas rendu à temps car vous avez commencé trop tard peut être trop difficile, trop douloureux.
Ouais. »
Alors, ce qui est plus facile, c'est de dire que vous avez dépassé le délai parce qu'une autre équipe était en retard pour vous fournir ce dont vous aviez besoin. Ou votre ordinateur est tombé en panne, ou quelqu'un a encore bu tout le café, ou tout ce qui précède. Jetez un regard honnête sur vos propres fautes et reconnaître comment vous avez contribué à l'échec de quelque chose n'est jamais chose facile.
Mais ça peut arriver, pour vrai, ces raisons-là, mais c'est pas...
Oui, mais ici, on parle dans des cas où ce serait pas vrai.
Ce serait pas vrai,
c'est de fausses excuses.
Ouais.
Selon un monsieur du nom de... Saul McLeod, qui est chercheur en psychologie à l'Université de Manchester, il nous dit « Pour beaucoup de personnes avec un égo sensible, il est si facile de trouver des excuses qu'elles n'en ont jamais vraiment conscience. En d'autres termes, nous sommes nombreux à croire à nos propres mensonges avec une grande facilité.
Ouais. »
Quatrième moyen d'évitement, il y a le report. Et la devise de ce mécanisme serait « Je dois trouver une cible sans méfiance pour y reporter mes émotions négatives. » Autrement dit, on se trouve une cible plus facile, puis là, on lui rejette nos difficultés sur lui, sachant qu'il n'y a pas de danger.
Au lieu de les gérer soi-même. Hein.
Oui. Alors, Mme Bougarde nous dit « Votre patron est entré dans le bureau avec une heure de retard. C'est une transgression que vous auriez pu ignorer. S'il n'avait pas eu l'audace de vous appeler dans son bureau et de vous faire un exposé sur l'importance d'arriver à l'heure. »
Oui. Donnons l'exemple. Ça, oui. Ça.
Alors, la fumée sort de vos oreilles, mais vous savez que vous ne pouvez pas crier à votre patron. Vous gardez votre sang-froid, vous vous excusez pour rien et vous quittez le bureau. Que se passe-t-il ensuite? Si votre mécanisme de défense est le report, toute personne qui croise votre chemin s'en repentit. Vous risquez de vous fâcher de manière injustifiée avec vos subordonnés directs, voire d'attaquer vos collègues innocents. En termes simples, vous allez canaliser toute votre frustration et vos émotions négatives vers une cible totalement erronée, parce que diriger ces sentiments négatifs vers votre patron aurait eu des conséquences néfastes pour vous. Vous êtes humain et les mauvais jours sont inévitables. Cependant, il n'en reste pas moins que ce comportement n'est pas fiable et ne fera que nuire à vos relations de travail à long terme. Calmer son anxiété en augmentant celle des autres n'est pas la solution. Les mécanismes de défense sont naturels. S'ils sont utilisés occasionnellement, ils peuvent s'avérer réellement utiles. Cependant, lorsque votre mécanisme de défense devient une habitude qui se répète, cela peut vous nuire. Je n'irai pas par quatre chemins. Arrêter d'avoir recours à ces mécanismes de défense est inconfortable et difficile. Cela exige que vous fassiez exactement ce que vous espériez éviter, soit vous permettre d'être vulnérable. Comme tout autre comportement, la première étape pour apporter un changement consiste à reconnaître le problème. Analysez vos pensées, vos émotions, vos réactions et vos échanges au travail pour déterminer l'un des mécanismes de défense mentionnés que vous utilisez comme béquille au quotidien. Il existe de nombreux autres mécanismes de défense. Es-tu prêt, Yvan? Parce qu'il y en a plusieurs.
On prend des notes. toujours bon de prendre des notes.
Il y a la régression, soit revenir à des comportements enfantins. Il y a la projection, soit attribuer vos pensées et vos émotions aux autres. C'est-à-dire, votre collègue vous semble très nerveux pour son évaluation de performance, alors que c'est en fait vous qui êtes anxieux. Il y a aussi ce qu'on appelle le défaire, c'est-à-dire tenter de contrecarrer un comportement négatif avec beaucoup de points positifs. Par exemple, vous faites une dure critique à un collègue, puis vous le couvrez de compliments pour le reste de l'après-midi. Une fois que vous avez identifié ce que vous voulez utiliser pour préserver votre propre ego, il est temps de demander de l'aide afin que vous ne retombiez pas dans vos vieilles habitudes. La meilleure défense, c'est l'attaque. Pas vrai? Ce sentiment est vrai dans le sport, mais pas tellement au travail. Si vous vous appuyez excessivement sur un de vos mécanismes de défense, il est facile de retomber dans une situation qui génère de l'anxiété au travail. Madame Bougard nous dit en terminant, alors essayez d'y remédier.
Ouais.
Comme si ça me fait penser dans le sport, tu sais, des fois on dit c'est beau avoir une bonne défensive, mais il faut pas se fier toujours là-dessus sur les mêmes systèmes de défense parce que l'adversaire va les deviner.
Ouais, merci beaucoup pour cette chronique, les mécanismes de défense du cerveau à Folie douce.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Pour conclure cette émission, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a présentées cette semaine, à l'émission justement. En début d'émission, tous les deux.
De Ellie J.
On a entendu Parmi nous.
De Léo Piché.
Dans la deuxième demi, plus tard.
De Big Flo et Oli.
Et à l'instant, Incendie.
De Philpo.
Merci beaucoup pour le choix musical et ta mise en onde.
Bienvenue, mon cher.
Merci également pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as parlé des mécanismes de défense du cerveau. Notre invité en début d'émission, Nicolas Gildersleeve, nous a mieux fait connaître la Halte du Coin. C'est une organisation qui s'occupe d'itinérants sur la rive sud de Montréal. Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi des nôtres. Elle nous a parlé du moral en télétravail. C'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.